RCJ, à l'écoute de votre vie. Bonne journée sur RCJ. Un livre, un lecteur, Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Bonjour Mokhtar Hamoudi.
Bonjour.
Alors vous auriez pu venir nous parler de votre livre Les conditions idéales qui est sorti l'année dernière, 2023, dites donc un coup de maître, hein. Prix Goncourt des détenus, vous étiez en lice aussi pour le Renaudot, mais l'émission, si on ne parle pas de son livre, on parle d'un livre qui a marqué et ça permet aussi de... Je trouve, à travers ce livre, de découvrir aussi la personnalité de nos invités. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas et donc qui vont...
Ils sont nombreux.
Et qui donc iront lire les conditions idéales. Mais vous avez intérêt à aller lire les conditions idéales parce que moi, je dis aux auditeurs que Mokhtar Hamoudi, il va sortir plein d'autres grands bouquins parce que celui-ci est vraiment un coup de maître. Il y a vraiment un style... avec de l'humour, enfin des choses très très profondes. Vous auriez pu, j'ai lu parce que je ne vous connaissais pas, que vous avez, c'est un peu cliché, pardon, mais passé une enfance en banlieue, dans des familles d'accueil, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Et que vous dites vous-même que vous auriez pu mal tourner.
J'ai mal tourné même, on va dire. Mais je me suis redressé et puis...
Mais qu'est-ce qui fait qu'on se redresse à un moment donné ?
J'ai pu aller à Paris et partir de cet environnement puisque, je vais citer mon personnage, Scander, donc des conditions idéales,
oui.
Regardant la télé à propos de reportage sur la délinquance, et lui, oui. En train de vivre ce moment-là, dit... nous aussi, nous avions la gangrène. Hein, et donc, ce petit personnage fort à l'école, eh bien, va se transformer à un moment en délinquant. Et ça agit comme une gangrène, vous voyez, elle est partout, elle est dans les personnages de Zola, elle est dans certaines...
Il y a peut-être l'amour aussi des familles d'accueil, sans être indiscret, qui à un moment donné fait que...
C'est vraiment
un déclic.
Oui, un déclic. J'ai pu partir à Paris et atterrir à Place Pérère. Et puis alors, le RER passait par chez vous, le 5e arrondissement, vous voyez... J'y suis encore, je l'adore, puisque je suis en doctorat à la Sorbonne en ce moment.
Ah bah vous voyez.
Voilà, on est voisins.
Voilà, et vous vous dites, parce que vous avez fait aussi du mannequinat, mais quand même, c'est ce qui va, vous sauver, enfin, et ce qui nous sauve d'ailleurs à des moments donnés, c'est la lecture et la passion, dites donc, des dicots.
Oui, c'est vrai que la lecture, quand on est, quand on n'a pas de, moi j'ai pas de parents, j'ai pas de...
Vous les trouviez comment, vos livres ?
De capital financier. Oui. Et finalement, c'est pas très dur à trouver. Non, je dis que le capital culturel est quand même le seul qui ne nécessite pas d'hériter ou d'avoir de l'argent. Il faut juste un peu d'envie, voilà. Et donc, aimer ça. Et alors, effectivement, je lisais le dictionnaire parce que j'en avais un chez moi, un Larousse, la couverture marron, et puis un peu à la bibliothèque. Et puis,
ça coûte pas cher, je le dis toujours, oui. Vraiment. C'est quand même un monde d'évasion quand on arrive à y rentrer.
Bien sûr.
Qui ne coûte pas cher, en plus, avec les livres d'occasion.
Les livres de poche, bien sûr.
Voilà, un livre de poche d'occasion. Ouais. Franchement, on en trouve plein à 1 euro, un peu partout, en tout cas, dans notre quartier latin.
J'allais chez Gibert avant, voyez-vous.
Mais on en trouve partout, notamment chez nos chers bouquinistes, mais pas que. Nous avons aussi des librairies que je défends beaucoup aussi, ces librairies... d'occasion, parce qu'elles sont le complément indispensable des autres librairies, tout ça fait partie d'un monde. Alors dites donc, vous attaquez à un monument, enfin double monument, Zola, monument 1, monument 2, La Curée, qui est son deuxième livre, hein, de la, évidemment, la mondialement connue, mondialement connu cycle des Roucon-Magard. Alors déjà, Zola, c'est quand même... j'aime bien qu'on reparle des écrivains, parce que je trouve qu'ils ont des parcours incroyables. Lui, c'est un roman, déjà, Zola.
Oui, absolument. Le Zola qu'on connaît, c'est le Zola, de
Jacques Luz.
Et moi, je l'ai découvert par La Curée et par L'Argent. Surtout par ce personnage de Saccard.
On va y revenir, parce que c'est quand même un sale personnage.
Et Zola, donc c'est des Rougon-Macquart, c'est à peu près 20 romans.
Ouais, 20.
C'est quand même des tours de... Enfin, il faut avoir, je pense, une puissance de travail absolument incroyable pour faire ça.
Ce qui était son cas.
Oui.
Alors, le 1, La fortune des Rougon, le dernier, le docteur Pascal.
Exactement.
Et là, vous en avez 20.
Voilà, c'est ça, oui.
L'été n'y suffit pas.
Et non, celui-ci, j'ai dû le... Enfin, on en parlera, mais...
Oui, bien sûr.
Ça ne se lit pas en deux jours, hein, ces romans. Non, et Zola, donc, moi, je le connaissais, évidemment, de l'école, c'est-à-dire pas très bien étant donné le parcours scolaire que j'ai eu à ce moment-là, et puis donc je l'ai découvert par hasard plus jeune étudiant, et donc ça m'a beaucoup intéressé finalement la dimension économique de son œuvre.
Voilà. Oui.
Donc c'est là-dessus moi que je me suis concentré, et donc la curée constitue la première pierre, et
bien sûr.
Et ensuite je dirais que c'est un grand mémorialiste, hein, celui du Second Empire.
Voilà. Bien sûr. Alors, il y a un côté, on va y revenir, il y a un côté qui fait qu'il a été très, très critiqué. Il y a un côté, on lui reprochait l'animalité, parce que Zola, c'était quand même un auteur qui bossait pendant des mois et des mois pour, comment dirais-je, faire retrouver de la documentation sur ces sujets. J'ai lu par exemple pour la Semoire, il était allé évidemment avec des mineurs. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui, pour Germinal, pardonnez-moi, c'est vraiment quelqu'un qui va qui passe des heures à préparer ses romans, et derrière il y a une, enfin c'est le père du roman naturaliste, comme chacun sait, et il a été beaucoup critiqué parce qu'on lui reprochait son animalité, notamment le poète Barbé d'Orvilliers. Il disait c'est le Michel-Ange de la crotte. Alors il y avait un côté en même temps positif et très négatif et péjoratif. On retiendra évidemment le Michel-Ange. Alors tout le monde connaît Rougon-Macquart, mais on oublie qu'il a fait des nouvelles, des contes, du théâtre, et puis deux autres grandes fresques que j'avoue n'avoir jamais lues. J'en ai entendu parler, mais jamais lu le cycle des Froment. On le lit peu, alors que j'ai eu quelques passages sur les quatre évangiles, mais c'est beaucoup beaucoup moins connu. Alors 1871, il y a la fortune des Rougon-Macquart. Bon, alors ça c'est la fortune, ça vous intéresse moins. Mais alors le 2. Le 2, c'est la curée. Et la curée, c'est quand même le pari de Haussmann, quoi.
C'est ça, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est son second Rougon-Macquart, et ça sort en 71.
Ouais, donc 71, après 72.
Qui correspond à la fin de son œuvre, donc la débâcle.
Ouais.
Et donc on est... C'est la fin du Second Empire, et on retourne au régime républicain, oui. Et donc ça correspond, la curée, à cette période assez particulière et déterminante qu'a connue Paris, qui constitue donc celle de sa nouvelle vie et donc de son urbanisation,
ouais,
à marche forcée par cet éventreur, hein, le baron Haussmann, effectivement,
oui,
voilà,
ouais,
qui a été chargé par, pas que Paris d'ailleurs, il y a eu d'autres villes.
Ouais, mais alors Paris, s'est démené.
C'est ça, et donc il a modifié pour toujours...
La physionomie, en détruisant.
Voilà.
Alors il y a eu des aspects positifs, parce qu'on oublie que c'était cette période-là, c'est une période à la fois... on est obsédé par la sécurité, donc on veut des très très grandes avenues, des grands boulevards, parce que les petits... c'était quand même assez propice à la révolte. Donc les grands, la police de l'époque mater plus facilement les émeutiers. Et puis l'obsession aussi hygiéniste. Faut bien avouer qu'il y avait quand même aussi, à la décharge d'Haussmann, qui a été, comme vous le dites très justement, un éventreur, il y avait aussi des quartiers, y compris autour du quartier Mouffetard, qui a été... paradoxalement un petit peu moins touché que d'autres, comme le Saint-Germain ou la rue Saint-Jacques, mais il y avait des quartiers qui étaient dans un état d'insalubrité épouvantable. Les Halles, par exemple, c'était toutes les Halles, tout ce qui est aujourd'hui le centre de Paris, c'était un état d'insalubrité totale.
Oui, et donc il faut effectivement transformer pour certaines raisons, et alors... nous y voilà, un homme va se charger d'accompagner le baron Haussmann, et c'est notre cher...
Eugène
Saccard, voilà. Oui.
Alors, Aristide. Aristide Saccard. Alors,
excusez-moi,
Aristide Saccard, c'est le frère d'un ministre, soutien de Napoléon III.
Bien sûr.
Et donc le ministre qui s'appelle Eugène, lui évidemment il a tous les filons, lui il sait ce qui va se passer, il sait où est-ce que Haussmann a prévu de détruire. Alors le frérot qui est un affreux personnage.
Oui absolument. Donc,
récupère toutes les infos, il achète à bas prix.
Oui c'est ça, ils fonctionnent un peu en mafia ces gens-là, ouais. Et donc une mafia familiale avec effectivement Eugène, excusez-moi, qui était avocat, député, grand soutien du coup d'État de Napoléon III.
C'est pour ça qu'il va devenir ministre.
Voilà, qu'il va devenir ministre.
À propos de mafia.
Et il va placer son frère donc, qui lui n'a pas soutenu le coup d'État, est arrivé trop tard... à Paris, ouais. Ils viennent de Plassans, donc dans le sud, et donc il va le faire agent voyer, donc les voies à la mairie de Paris.
C'est sympa ça.
À l'hôtel de ville, voilà. Et donc de là, Aristide va se transformer petit à petit d'un simple employé, en un formidable spéculateur. Évidemment, c'est un délit d'initié permanent,
puisqu'ils
auront les informations pour savoir. Quels immeubles vont être détruits. Voilà.
Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il achète à bas prix des immeubles qu'il va revendre à prix d'or à la ville de Paris pour faire des aménagements, et notamment sur les grands boulevards, parce que là, les grands boulevards, alors là, c'est une mine d'or. Au passage, il y a encore de nombreuses familles, grand bien leur fasse, qui descendent de ces spéculateurs, parce que c'est une réalité, il y a eu des dizaines de spéculateurs. Certains étaient d'ailleurs des grands architectes qui ont laissé leur nom dans notre histoire et qui ont bâti et qui ont amoncelé des fortunes tout à fait considérables. Alors Saccard, en plus, il aurait pu se contenter d'être, certes, un spéculateur mafieux, mais alors, en plus, il n'a ni foi ni loi, donc il utilise... Les pauvres femmes.
Oui, en fait, il est amoral, et il a quand même, ce qu'on peut lui reconnaître, une certaine envie de parvenir. À la fortune. Et donc, effectivement, il montera à Paris avec sa première femme, qui décédera.
Ouais. Il place ses enfants. Il se débarrasse des enfants.
Mais surtout, c'est qu'il s'arrangera pour trouver, aidé par sa sœur. On est toujours dans la mafia. La mafia Rougon, aidé par sa sœur, a trouvé cette Renée, qui descend d'un... Enfin, son père est, je crois, procureur,
Elle est riche.
Très riche, de bonne famille, et donc il y a la dot. Il va décider de se marier quasiment sur le lit de mort de sa première femme.
Bien sûr.
Pour ce qui décrit bien le personnage de Saccard, oui.
Il va la déposséder totalement de sa fortune. Alors, il la dépossède parce que la spéculation, il y a aussi des moments où il y a un mauvais sort, donc ça ne marche pas.
Bien sûr, qu'il
a un train de vie extravagant.
Un train de vie absolument colossal, oui. Après ses premiers coups, il va s'installer dans un hôtel particulier à la Plaine Monceau, voyez. Et donc, c'est un peu le passage des fortunes qui étaient avant sur le Faubourg Saint-Germain, notamment chez Balzac, vous voyez. Et donc là, on arrive dans le 8e arrondissement, qui est toujours l'arrondissement, on va dire, de l'argent à Paris. Et donc, des grandes affaires.
Mais la Plaine Monceau, c'est exactement ça. Là, il y avait tous ces hôtels particuliers, tous de cette période-là, pratiquement tous.
Et donc, effectivement... son hôtel particulier va lui coûter beaucoup d'argent. Il va être pris dans une folie, puisque il a besoin dans son... C'est de la cavalerie, ce qui nous fait Saccard. Et donc,
bien
il
sûr.
A toujours besoin d'informations, de corrompre des gens, de les...
Donc, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'argent, il a besoin
il faut les apparences,
énormément. Donc, il faut les apparences. S'il n'y a pas d'apparence, il ne va pas pouvoir corrompre les gens.
Exactement. Voilà. Et donc, c'est de la dépense sans fin. Et lui, il est dans une... Enfin,
c'est une spirale. Les femmes font les frais, parce que cette pauvre Renée, elle va être dépossédée de sa fortune, elle va être... Elle va tomber amoureuse, un peu comme une espèce de Phèdre de la Troisième République. Elle tombe amoureuse du fils de Saccard. Alors, relisez ou lisez vraiment La Curée, parce que c'est une fresque incroyable, avec des personnages incroyables. Et ce Saccard, je me disais en relisant La Curée, ce Saccard, c'est assez terrible, mais il nous fascine quelque part. Et il a cette capacité, comme aujourd'hui d'ailleurs, qu'ont certains hommes et femmes d'argent, à exercer une forme de fascination. L'argent, c'est le pouvoir.
Absolument, oui. Il pourrait, moi, j'aime bien l'économie, j'aime bien la politique, donc moi, il m'a fait penser à certaines personnes, hein, que je m'abstiendrai de citer, évidemment, mais il y a cette force vitale qu'il a en lui.
Oui, ça, c'est clair.
Et cette capacité d'entraînement. Ouais. Et donc, et aussi cette capacité, je crois, à oublier ce qu'il y a autour de lui, et donc c'est quand même un roman. Moi, au début, je pensais que c'était un roman sur l'immobilier, mais là, je dois reconnaître que j'ai l'impression que l'inceste est le sujet majeur.
Et il va y avoir une forme d'inceste, mais en même temps, le père n'est pas du tout gêné, d'ailleurs, c'est le cas.
Non.
Donc, parce que le père n'est pas gêné par cette relation avec le fils, il dit même que ça va pouvoir l'arranger, puis au moment où ça ne l'arrange pas, il va obliger son fils, évidemment, à quitter René, pour épouser infirme, une femme infirme, mais qui est là, très très riche. C'est le symbole d'une époque ou c'est les symboles finalement de toutes les époques où le capitalisme est débridé, cher Mokhtar Hamoudi?
Bah, je pense que c'est des mœurs qui ont certainement dû se développer à cette période de façon radicale, étant donné qu'on est quand même, faut pas l'oublier, mais à peu près un siècle après la Révolution, et donc la modernisation démocratique, la liberté relative, mais en tout cas que on acquiert le développement des journaux, de la finance, de la spéculation, effectivement.
Les journaux sont très importants.
Et donc, aujourd'hui, c'est toujours la même chose, notamment sur la question de l'argent.
Et de la collusion aussi.
La collusion, effectivement.
Entre le monde de la presse.
Ça a toujours été ça, bien sûr, oui. Et je pense que ce sont des mœurs qui sont intemporelles. Hein, mais ce qui est aussi fascinant, c'est la capacité pour certaines personnes, aveuglées par leur objectif, de complètement oublier ce qui se passe autour d'eux jusqu'à dans leur foyer.
Il y a un dicton populaire qui dit la fin justifie les moyens. Ouais. La curée, c'est du grand Zola.
Oui.
Je me permets de rappeler ce que fondamentalement c'est la curée, vous qui aimez les dictionnaires, Mokhtar Hamoudi. La curée, la chasse à mauvaise presse, mais enfin, la curée existe toujours en vénerie, et la curée, c'est la part de la bête, du daim, du cerf, parce qu'évidemment, c'est sur la chasse au gros, qu'on donne aux chiens qui sont utilisés dans la chasse, et évidemment, par extension, cette espèce d'avidité, de cette ruée vers le butin. Ça, c'est quelque chose que Zola dénonce, voit de près. Évidemment, ça ouvre les yeux. Tout en ayant un Zola qui est un Zola très aisé, parce qu'il a eu l'aisance matérielle. Il va avoir, ça va être un monsieur qui va mener grand train, Zola.
Pour écrire à l'époque, il faut être de la rente.
Puis tout son travail de recherche, etc. Il aura maison de campagne, un appartement dans le 9e, pas très loin, à l'endroit où tout se passe aussi, parce que l'actuel 9e a été très, très impacté aussi par ce. Oui. Ce travail de Haussmann, l'aisance lui vient avec l'assommoir. Donc il a les moyens vraiment d'étudier, les moyens de porter son art, et il le porte haut. Vous nous lisez un passage, Mokhtar Hamoudi, de cette curée qui, hélas, n'a rien perdu de son actualité. Voilà.
Très bien, oui, c'est le début, donc quand le frère aide Eugène Rougon.
Voilà. Donc Eugène, le ministre.
Voilà. Va
quand
décider
il aide.
Aristide, qui n'est pas Saccard. Encore Saccard. Voilà. Voilà.
Parce qu'Aristide s'appelait Saccard, et Aristide prend le nom, comme chacun sait, de Saccard, qui est devenu d'ailleurs un personnage un peu culte. Hein. Saccard, c'est maintenant le symbole de la révise, du spéculateur.
Prends, continua-t-il. Tu me remercieras un jour. C'est moi qui ai choisi la place, je sais ce que tu peux en tirer. Tu n'auras qu'à regarder et à écouter. Si tu es intelligent, tu comprendras et tu agiras. Maintenant, retiens bien ce qu'il me reste à te dire. Nous entrons dans un temps où toutes les fortunes sont possibles. Gagne beaucoup d'argent, je te le permets. Seulement, pas de bêtises, pas de scandale, trop bruyant, ou je te supprime. Cette menace produisit des faits que ses promesses n'avaient pu amener. Toute la fièvre d'Aristide se ralluma à la pensée de cette fortune dont son frère lui parlait. Il lui sembla qu'on le lâchait enfin dans la mêlée, en l'autorisant à égorger les gens, mais légalement, sans trop les faire crier. Eugène lui donna 200 francs pour attendre la fin du mois, puis il resta songeur. « Je compte changer de nom, » dit-il enfin. « Tu devrais en faire autant, nous nous gênerions moins. »« Comme tu voudras, » répondit tranquillement Aristide. « Tu n'auras à t'occuper de rien, je me charge des formalités. Veux-tu t'appeler Sicardo du nom de ta femme ?» Aristide leva les yeux au plafond, répétant, écoutant la musique des syllabes. « Sicardo, Aristide Sicardo, ma foi non, c'est ganache et ça sent la faillite. « Cherche autre chose alors, » dit Eugène. Aristide Sicard, pas trop mal, n'est-ce pas ? Peut-être un peu gai. Il rêva un instant encore et d'un air triomphant. « J'y suis, j'ai trouvé, » cria-t-il. « Sacard, Aristide Sacard, avec deux C. Hein. » Il y a de l'argent dans ce nom. On dirait que l'on compte des pièces de 100 sous. Eugène avait la plaisanterie féroce. Il congédia son frère en lui disant avec un sourire « Oui, un nom à aller au bagne ou à gagner des millions. »
Alors merci d'avoir, d'avoir choisi ce passage.
Extraordinaire. Parce
que ce passage est extraordinaire. Ouais. Il dit tout. Ouais. Il dit tout sur l'arrivisme. Il dit tout sur cette course effrénée à l'argent, à la spéculation. « Mon frère, tu peux tout faire. Tu ouais. peux tuer. Tu peux... Mais... Si ça se... Il ne faut pas que ça se sache. Oui. Ça se sait, je te lâche.
Oui, c'est très bien fait d'ailleurs, cette dialectique entre les deux. Ouais. Et puisqu'on parle de la curée, mais évidemment, il y a l'argent après la curée hein, qui constitue donc la suite oui. des aventures de ouais. Sacard. Et ouais. donc, cette dialectique entre le frère qui monte en politique, qui est très doué, et Sacard qui est doué, mais pour d'autres choses, et qui, finalement, n'est pas jaloux de son frère et comprend non. qu'il lui est supérieur. Et simplement, essaiera... Eh bien, de s'attirer ses faveurs. Et même parfois, vous savez, il y a Napoléon III est dans le livre. Hein, et donc, Sacard est même prêt à offrir sa pauvre femme Renée à l'empereur, si tant est qu'elle lui facilite ses affaires
bien sûr.
De spéculation.
Voilà. Ouais. Alors, évidemment, toute comparaison avec des personnages ayant hésité ou susceptibles d'exister. Est à proscrire, bon, comme ça. Mais la réalité, c'est que, effectivement, c'est un monde qui est un peu toujours à l'œuvre. Il y a un formidable hors-série qui est sorti en mars d'un professeur émérite de Sorbonne Université qui s'appelle Alain Pagès, qui est historien de la littérature, sur Émile Zola. Je vous le recommande. Alors, c'est pas sur la curée, c'est sur Zola et son écriture, mais alors, ça s'appelle... peut-être un titre un peu racoleur, je crois que c'est un homme de femme, parce que c'est vrai que bon, Zola était, avait son épouse, très très dévouée à Alexandrine, et puis il avait Jeanne, c'est un peu comme Victor Hugo, qui avait 24 ans de moins que lui, je crois, deux enfants, et Alexandrine va être une épouse dévouée jusqu'au fond. Alors au début, elle est très très jalouse, et elle va rester avec lui, et le deal... Ça sera, Jeanne doit être d'une discrétion absolue. Elle ira même jusqu'à recevoir et s'occuper un peu de l'éducation des deux enfants que Zola a eu avec Jeanne. Écoutez, vraiment, merci d'être venu nous faire redécouvrir la curée. N'ayez pas peur des petites lignes, hein, parce que Zola, c'est un très bon repas, mais ça dure longtemps. C'est un livre qui est magnifiquement écrit et vraiment, je trouve que Zola dissèque comme personne l'âme humaine.
Oui, et puis d'ailleurs, tout ce roman se passe dans une espèce d'odeur qui est celle de la flore. Et il a, comment dire, dans l'appartement, dans l'hôtel particulier de Sacard, eh bien, tout un nombre incalculable eh bien, de fleurs, de plantes... lointaines, eh bien, donneront, oui. je pense, favoriseront un peu les ébats de sa femme et de son fils.
Oui, voilà. et merci beaucoup, Mokhtar Aboudi, de faire aussi allusion à cet environnement florale, mais les fleurs peuvent être aussi vénéneuses, comme chacun sait. Et elle nous ramène à ce qui est profondément aussi l'œuvre de Zola. L'œuvre de Zola, c'est une fabrication, une véritable fabrication poétique de l'œuvre. Nana, par exemple, c'est le poème des désirs mâles. La terre, c'est le poème vivant de la terre. Et à chaque fois, il y a une dimension politique, une dimension poétique, pardonnez-moi, et évidemment une dimension aussi très souvent politique, au sens étymologique, avec à chaque fois des questions qui sont soulevées. Donc là, c'est la question de cette spéculation, de ce capitalisme effréné. Germinal, ce sera vraiment la question sociale. L'argent, pas mal la question juive aussi, la question paysanne, etc., etc.
Faut lire, il aura vraiment traité. Il aura traité la France sous toutes ces dimensions de l'époque. Hein, oui,
rien parce que ça se termine par Pascal, et Pascal, ouais. C'est vrai que c'est cette époque aussi des grandes découvertes.
Ouais,
et d'ailleurs, on va fermer la boucle avant de nous quitter. Je rappelle que la fille de Saccard. Il a envoyé son fils Maxime dans une pension et la fille est envoyée chez le docteur Pascal. Et on retrouve au bout des Rougon-Macquart la fille aussi chez le docteur Pascal. Donc merci beaucoup Mokhtar Hamoudi, bravo pour les conditions idéales.
Merci de l'invitation.
Et je vous souhaite tout le succès que vous méritez pour vos futures productions littéraires.
Il faudra travailler.
RCJ 94.8 et radio-rcj.info.
Breslev Boost avec Francky Pérez.
Avez-vous des notions d'informatique? À la manière d'un ordinateur, ce monde est géré par un système d'exploitation. Plus précisément, notre monde est géré par deux systèmes d'exploitation. Le système d'exploitation binaire et le système d'exploitation qu'on nommera la providence. Le système binaire correspond au système de la logique. Il s'agit du fameux « si tu ne fais pas d'études, tu n'auras pas d'avenir ». Tout n'y est que succession de causes et de conséquences. Dans notre monde occidental, c'est ce système qui nous est proposé. Le système providentiel, lui, est un système d'exploitation différent. C'est un système dans lequel nous sommes envoyés dans ce monde pour révéler Hachem, et ce, pour une période momentanée durant laquelle nous devons construire notre monde futur. Dans ce système, pas de loi de cause à effet. Lorsque nous avons la émouna, la foi, mais de véritables miracles. Voici les deux systèmes qui se côtoient dans ce monde. Sachez qu'en Israël, le système binaire ne fonctionne pas. La preuve, nos ennemis se recensent par centaines de milliers dans le monde entier. Et pourtant, nous sommes encore bel et bien là. Car tout est dirigé par Hachem. Et vous, de quel système voulez-vous faire partie? Shabbat Shalom.
Vous êtes sur RCJ. Les refrains de mon cœur, Frédéric Zetoun.
Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour une deuxième saison des refrains de mon cœur sur RCJ. Et pour marraine de cette deuxième saison, une invitée de marque et de cœur. Quelques 60 années de carrière, l'une des plus grandes voix et des plus belles voix de la chanson française, une femme qui, sans langue de bois, a traversé des décennies en restant toujours fidèle à elle-même. C'est Nicoletta qui nous fait l'honneur d'être la marraine de cette deuxième saison de notre émission. Bonjour Nicole, comment allez-vous ?
Bonjour, c'est un grand bonheur de te retrouver.
C'est un bonheur pour nous de vous...
Je suis très fière que la radio m'ait invitée.
Et vous êtes donc notre marraine de cette deuxième émission. Et les auditeurs nous font le plaisir de nous écouter de plus en plus. Nicole, quelques 60 ans de carrière, ça donne le vertige ou pas, sincèrement?
Pardon?
Est-ce que ça donne le vertige, 60 ans de carrière?
Non, parce que moi... moi, je pense que c'est ce que j'ai à faire.
Pour vous démarrer aujourd'hui?
Non, je pense toujours à l'avenir.
Bien sûr.
J'avais une grand-mère qui était formidable. Chaque fois que je traînais un peu, elle me disait « Attention, regarde en avant, regarde devant toi. »
Les rétroviseurs, c'est pas votre
tomber.
Truc.
Elle me dit « Hier, c'est fini. Tu avances. Il faut avancer. » Et elle avait raison. La vie, il faut marcher. Il faut avancer. Il faut avoir des projets. sans bien projet, sûr. On ne grandit pas, on ne pousse pas, on va nulle part. Et moi, j'ai toujours un projet qui traîne.
Alors,
j'ai
justement,
chance.
Et votre actualité, Nicole, sortie en novembre chez Universal, des 50 plus belles chansons de votre répertoire. En fait, c'est un extrait de votre intégrale.
Voilà, exactement. L'intégrale, il y a 309 chansons. Ça fait un peu cher. Ça fait un coffret quand même. Pour les gens qui ont moins de moyens. Et on a pensé à faire ces 50 titres, et ça coûtera beaucoup moins cher. Voilà.
Il y a ce coffret qui sort en novembre, ce triple album, et puis alors vous êtes sur les routes. Je voyais votre planning, à partir du 2 novembre, vous êtes sur les routes pour tout l'automne et pour tout l'hiver. Là, c'est parti. C'est votre vie, ça, c'est votre adresse.
Oui, je travaille beaucoup moins qu'avant, hein, je fais attention. Oui. J'aime bien dormir, j'aime bien avoir mes habitudes, mes lectures, petit pépère, hein, promener mon chien 3 fois par jour, faire les courses. Bon, mais j'aime aussi partir, j'aime voyager, et puis j'aime cet esprit de troupe que nous avons avec mes copains musiciens. Bah, tu le sais, tu fais le même métier que moi. On est musicien, technicien, choriste, on part dans le même car, et puis. On habite les mêmes hôtels, on prend des petits déjeuners ensemble, on dîne ensemble.
C'est votre oxygène, ça, Nicole, aujourd'hui?
Oui, moi, je suis une saltimbanque. J'aime beaucoup bouger. J'ai presque fait le tour du monde, à part l'Australie et y a des tas de contrées que je ne connais pas, mais quand même, j'ai chanté dans plein d'endroits insensés. Jamais je n'aurais pensé le faire un jour. Quand je me suis retrouvé à Pékin en 87, 88, en train génial. De représenter la France et de chanter Mamie Blue et d'apprendre des chansons en chinois, parce que sinon tu ne rentres pas dans le pays.
Et la chanson en chinois, j'y tiens.
Ah ouais, quelle horreur. Et c'était très difficile. J'ai chanté à Tokyo, j'ai chanté en Amérique du Sud, à Rio, d'où j'ai ramené Fio Maravilla. J'ai chanté vraiment toute l'Afrique, grâce à Mamie Blue. C'était numéro 1 dans tous les pays africains, surtout la côte ouest. Et j'ai fait chaque pays avec dans des stades. Mais c'est merveilleux. On n'a pas besoin de leur dire taper dans vos mains. Il y a une ambiance extraordinaire. J'ai adoré. Je retourne un peu en Afrique.
Et justement, Nicole, cette longévité, tous ces pays que vous avez traversés, tous ces publics qui ont eu le bonheur de venir vous écouter, cette longévité aujourd'hui, d'après vous, c'est quoi? Et c'est quoi le secret? C'est d'avoir toujours été authentique? C'est d'avoir
non,
toujours fait ce que vous saviez
faire? Je crois qu'il faut suivre son instinct. Oui. Et puis, mettre son public à l'épreuve.
C'est-à-dire?
Pas du tout. Par exemple, quand j'accepte un duo avec Lavilliers, oui. Mon public est un peu interloqué. Le plus gros de mon public, oui. Il est interloqué. Qu'est-ce qu'elle fait? À l'époque, il mettait des Marcel, il faisait des beauty building. Bon, n'empêche que la chanson était excellente. Et il faut savoir étonner son public. Il faut aller là où il ne vous attend pas. La deuxième fois, c'est avec Joey Star. J'ai fait un Mamie Blue, bon, quand même un petit peu rap. Et il a changé de texte et je suis allé faire l'aventure. Et la troisième, c'est très mignon, c'est ses enfants, ces jeunes de la techno, oui, qui ont repris Fio Maravilla, mais c'est moi qui chante.
Bon entendeur,
le bon entendeur. Et c'est fabuleux. Il faut aller là où on ne vous attend pas.
Alors, est-ce que c'est là où vous attend pas? J'ai la sensation aussi, pour vous connaître un petit peu dans la vie, que c'est aussi vous étonner vous-même. C'est pas tant étonnant.
Me donner des défis, tout à fait, parce que ça me réveille, ça me donne un coup de fouet. Par exemple, moi, j'ai le plus gros chagrin de mon métier, c'est quand Mort Schumann a eu son cancer et qu'on a dû annuler la chanson. Où il y avait cette chanson magnifique. Mon premier
Femme de Paris.
Femme de Paris, moi j'ai pris un bonheur.
Je vous ai entendu la chanter, ouais. Sur une radio concurrente et néanmoins amie, sur une grande radio Europe 1 pour ne pas, ouais, la citer. Un matin en direct, ouais, à 9h. Moi j'étais étudiant et je vous écoutais, ouais, à la radio. C'était en direct, dans l'émission de Michel Drucker.
Je m'en souviens, ils étaient tous étonnés.
Et c'était, ouais, incroyable, ouais, parce que le matin, généralement, les chanteurs ne chantent, ouais, pas.
Moi je peux à partir de 11h midi maintenant. 8h, ça fait peut-être un peu tôt, parce que j'ai la voix qui s'est aggravée, qui s'est maturisée. Alors évidemment, déjà là, je pense déjà à ma tournée, je vais travailler 8-10 jours dans mon home studio pour chauffer mes cordes vocales. C'est comme
voix.
Un sport, hein, ces deux cordes vocales.
C'est une carrière d'athlète, en fait.
C'est des muscles. Il faut aussi que le corps se refasse à la respiration, tout ça. Donc, je mets mes bandes. J'ai un micro, j'ai 12 pistes.
Et vous bossez.
Et je travaille 2 heures dans l'après-midi. Comme ça, le jour du concert, quand je débute ma tournée, j'ai moins peur.
Comme une athlète.
Parce que, oui,
s'entraîne.
Parce que c'est pas du public que j'ai peur. Moi, c'est moi-même. J'ai peur de louper des trucs, j'ai peur de manger des mesures, j'ai peur d'oublier du texte. Ça fait pas sérieux quand même.
Ça s'appelle le respect du public.
Il faut être prêt. Et maintenant, j'ai plus de rigueur qu'avant.
Alors Nicole, je vous rappelle le principe de cette émission. Vous avez eu la gentillesse en amont de me donner quelques chansons qui ont compté dans votre vie. Et nous allons ensemble nous promener au pays de vos préférences musicales. Le premier de vos choix, je crois pouvoir dire que c'est l'une des rencontres les plus folles et les plus belles de votre carrière.
Oui.
C'est Ray Charles.
Oui.
Et vous avez choisi de nous faire écouter dans les refrains de votre vie. Montréal, 1967. Racontez-moi comment ça se passe.
Mais
je sais que vous l'avez raconté
moi,
souvent.
Moi, j'étais folle de Ray Charles. Quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'aimais la musique américaine. Je suis frontalière suisse. Et obligatoirement, j'allais à Genève avec des copains le samedi après-midi. On faisait des grands magasins. C'était notre ville lumière. On avait les disques import qui n'existaient pas en France. Il n'y avait pas un disque américain en France à l'époque.
Bien sûr.
Alors, j'achetais des disques. Et What They Said, à la plage, le jukebox, c'était 20 fois de suite.
Il était brûlant, quoi.
Oui, moi je le mettais, un copain derrière le mettait, et on dansait.
Vous ne vous imaginiez pas un jour rencontrer ce monsieur.
J'imaginais même pas que je serais chanteuse, alors vous voyez.
Alors, ça se passe comment? Vous êtes à Montréal en tournée,
oui.
avec votre impresario d'époque.
On a les mêmes agents locaux, les frères La Traverse, qui faisaient venir les artistes de différents pays, mais pas les Canadiens, ils s'occupaient des artistes étrangers. Donc ils avaient essayé de se mettre la Ray Charles dans un endroit comme le Palais des Sports, et moi dans un théâtre, et je chantais, oh, et Roland, je lui ai dit, j'irais bien voir mon idole, là. Oh, Ray Charles, j'adore, j'ai jamais vu sur scène.
C'est un rêve de gosse, quoi.
J'avais 23 ans, j'étais comme une folle. C'était OK, on est allé l'écouter, j'ai pleuré tout du long, tellement c'était beau, parce que vraiment sa voix, il a le cœur au bord des lèvres, cet
bien
homme.
Sûr.
C'est une prière quand il chante, c'est beau.
C'est vrai,
alors
c'est...
j'étais, oh, j'en pouvais plus. Et il nous invite dans sa loge parce que je suis une enfant Barclay. Et Barclay l'a distribué. Et il connaissait Eddie. Comment on est tout. Il nous invitait à dîner à Montréal dans le quartier chinois. On m'a mis à côté de lui.
C'est un rêve éveillé pour vous à ce moment-là.
Il a fait une chose incroyable. Il m'a demandé mon album. Alors je lui ai donné. Oui. Et il a pris son carnet de braille. Et il a écrit mon nom, mon adresse, mon téléphone en braille. Et avec mon doigt, il m'a fait regarder les lettres.
C'est génial.
Et il rigolait, c'était extra. Je me serais pincé.
C'est un rêve.
Ah, oui. Et on est rentré à l'hôtel. Et 3 semaines plus tard, j'étais émerveillé de l'avoir rencontré. Je ne pensais pas qu'il y aurait une suite. Il avait écouté le disque.
Il vous appelle.
Et il y a une chanson cartonnée, son intention, c'est incroyable, le destin des chansons. Il est mort, le soleil. Oh, il me dit au téléphone, alors déjà, je le raconte souvent, ça comme anecdote, les fans à l'époque nous réveillaient jour et nuit au téléphone.
Oui, donc vous pensez que c'était
affreux.
Un malfaisant.
Je les insulte. 2h du matin, le téléphone sonne, je voulais dormir. Ça n'a pas les fans. Moi, je veux dormir. Je commence à les traiter, j'entends rigoler derrière. C'était Ray Charles. Et il me dit, voilà, j'ai entendu le disque, c'est bien, tu chantes très bien, t'es toute petite, t'as une trop grosse voix, t'es comme la Piaf, il me dit, c'est ça le blues français, il rigolait.
Il dit même que vous êtes une blanche qui a une voix de noir.
Oui, il a écrit dans son livre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, t'as une chanson qui me plaît, et il parfouille dans ses bandes, il avait toujours des bandes avec lui, et j'entends également le soleil. Et il me dit, qu'est-ce que tu dis dans la chanson? What is the lyrics?
Et dire ça à un non-voyant.
Oh, j'étais mal. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Je me suis rappelé tout d'un coup qu'il était non-voyant. Alors j'étais vraiment gênée.
C'est tout le paradoxe.
Oh là là, j'ai été gênée. Alors je lui ai expliqué que c'est une histoire d'amour. Que tu dis, le nom de la chanson disait qu'il est mort le soleil parce qu'elle avait perdu son amour. Il rigolait. Il est très plaisantin. Il avait un cœur très gay, il était toujours gay. Et, I really like this song. I'm going to translate it in English. Bon, ben merci beaucoup, au revoir. Et je suis restée ébahie.
Chez Barclay, on vous a pas cru.
Oui, chez Barclay, donc j'étais mythomane. Bon, je veux bien, ça m'est égal. Mais 6 mois plus tard, il a sorti l'album.
Et voilà.
Ça s'appelait Portrait of Ray. Il a fait la Mama d'Aznavour sur ce disque.
Et vous?
C'est précieux, hein, ce disque.
C'est génial.
Parce qu'il y a deux chansons françaises. Il y a la Mama d'Aznavour et la Dora Aznavour.
La Mama Jacques Plante et Charles Aznavour pour la musique.
Voilà.
Et vous, Il est mort le soleil, de mémoire, c'est Hubert Giraud et Pierre Delanoë.
Delanoë qui me crée. Voilà.
Et tout ça après avoir écouté, lorsque vous étiez adolescente, What I Say, qu'on écoute tout de suite.
Oui.
De Richard. On écoute. Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love you, daddy, all night long. Refrain de mon cœur, excusez-moi.
Oui, c'est pas grave.
C'est pas grave, de ma vie,
nom.
De mon cœur.
C'est le nom de ton émission.
Nicole, à quel moment vous avez eu conscience du pouvoir de votre voix? À quel moment vous êtes dit, tiens?
Eh bien, je l'ai su petite fille, quand j'avais 8 ans, puisque j'étais à la chorale paroissiale.
Oui.
Je suis chrétienne et j'allais à la messe, mais évidemment, ma grand-mère, c'était après la guerre. Je suis née en 44, donc les enfants étaient très, très encadrés, surtout dans un village. Savoyen. En plus, Maréchal a beaucoup lutté contre le protestantisme. Nous sommes frontaliers, c'est la ville de Calvin, Genève. Alors, on a envoyé Saint-François de Sales et Saint-Jeanne de Chantal réévangéliser la région. Donc, mes ancêtres sont très croyants et les familles sont assez croyantes au point de vue catholicisme.
Et cette spiritualité, vous l'avez toujours gardée aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Je suis moins pratiquante parce que j'ai eu du travail. Mais j'ai toujours, c'est pas grave, je chante dans les églises.
Ah, c'est ça, bah, nous allons parler tout à l'heure.
Ces églises. Nous, j'y sens rigolant. Hein.
Mais à quel moment vous vous êtes dit...
Bon, alors, j'avais 8 ans et le curé, et c'est très amusant, ce prêtre s'appelait Monsieur Molinier.
Oui.
Et mon compagnon s'appelle Monsieur Molinier.
C'est Jean-Christophe, bien sûr.
Ah, c'est curieux.
C'est dingue.
Et j'ai dit, le bon Dieu est sympa quand même.
c'est une...
Ah, c'est joli.
Il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de hasard. Et ce monsieur, qui était un merveilleux musicien, en plus nous avions des orgues extraordinaires dans cette église 1930, qui a été construite avant la guerre par un architecte qui s'appelle Novarina,
oui,
qui est très connu. Elle est magnifique, l'église de mon village est une splendeur.
Et c'est lui qui vous a dit, donc c'est lui
J'étais à la chorale parce que ma tante y allait.
Oui.
Elle a 4 ans de plus que moi. Et avec toutes ses copines, moi je connaissais tous les gens du village. Et dans cette chorale, qu'il y avait des jeunes, des anciens, des femmes, des jeunes filles, des enfants. Et on se partageait les voix. Et on répétait le jeudi pour la messe du dimanche à l'harmonium. Moi j'adore l'orgue.
C'est magnifique.
C'est comme ça que j'ai découvert ma voix. Et je faisais les petites pièces solistes déjà. Parce qu'il a découvert que j'ai chanté très juste.
Vous aviez quelque chose que les autres n'avaient pas.
Voilà.
Et à quel moment vous êtes dites-vous, allez, j'y crois, j'y vais.
Moi, pendant longtemps, j'ai cru que tout le monde savait chanter. Parce que dans mon village, il y avait tout le village qui était à la messe, qui chantait. Quand je suis allée au collège, au lycée, je me suis dit, c'est pas vrai, il y en a qui chantent comme des casseroles. Dans ma classe, il y avait une chorale au collège.
Et justement, vous avez cru en vous à quel moment? À quel moment
C'est quand je suis arrivée à Paris pour travailler, j'ai cherché du boulot, j'ai été émancipée à 18 ans.
À l'époque où la majorité était à 21 ans.
Je suis tombée sur Hervé Villard, qui m'a hébergée, entre parenthèses, et lui, il avait son succès, et après c'est fini, mais comme il fallait avoir 20 ans pour toucher son argent, il était comme moi, on vivait de café noir et de pâtes à l'eau. Et...
c'est ce qui scelle une amitié pour la vie, ça.
Oui, c'est le parrain de mon fils. Et donc... Il m'a fait croire en moi. Et j'ai fait la DJ de vestiaire dans une boîte, dans un club qui s'appelle le King's Club,
oui,
rue Les Chaudets à Saint-Germain. Le disquaire dit, je m'en vais dans une autre boîte, viens, toi t'adores la musique, j'adorais chanter sur les disques. Je vais t'apprendre à mettre les disques. Et je l'ai remplacé. Et Hervé m'a dit, écoute-moi, au lieu de mettre tes disques, tes copains chanteurs, là, tu vas venir faire des auditions.
Et ça a marché.
C'était une fois par mois. Non, ils m'ont jeté, hein, j'ai fait nous dire.
Chez Barclay au départ, ils
m'ont jeté. Chez Philips,
d'accord.
C'est rigolo, ils ont sorti mon intégrale, ça s'appelle Universal.
C'est quand même très drôle, ça.
Oui. Et parce que je chantais en anglais. Et je suis allée chez Barclay parce que j'ai repéré par les musiciens de Nino Ferrer.
D'accord.
Et son directeur artistique était le bras droit de mon directeur artistique, Monsieur Missire,
un immense grand monsieur,
c'est lui qui a fait ma carrière.
Bien sûr.
Et donc, je savais pas trop de chansons, alors je chante dans Yaourt. Et j'étais folle d'Elvis, j'ai chanté I Go On Loving You d'Elvis Presley. Et ils ont rigolé, mec, d'où elle sort, celle-là, elle chante en anglais, ça se faisait pas. À l'époque, c'était pas du tout la mode. On faisait on appelait ça les yéyés. Et on prenait les trucs en français.
Adapté,
alors,
souvent.
Finalement, ils m'ont signé. Ils m'ont signé 6 mois.
Et c'est parti
comme
ça.
Premier disque, Pour oublier qu'on s'était aimé, Dino Ferrer.
Magnifique chanson de Dino
voilà.
Ferrer.
Et deuxième disque, La musique.
Et c'est parti.
Voilà.
Et alors, Elvis Presley, justement, vous l'avez choisi dans notre émission.
Il m'a porté bonheur, hein, j'ai signé grâce à lui.
Et vous avez choisi Amazing Grace. Alors,
oui,
vous avez été la première à aller chanter dans les églises. Maintenant, c'est devenu à la mode. Tout le monde va chanter dans les églises.
Tout le monde fait.
La toute première, et ça je le sais, parce qu'on était venu vous rencontrer à l'époque.
C'est pas grave, il faut savoir ouvrir des voies.
Et là, vous l'avez vraiment ouvert. Vous avez ouvert la porte des églises.
Ouvrir la voie, c'est important.
Amazing Grace, pourquoi ce titre du King? Parce qu'Elvis,
parce que
vous auriez pu choisir.
J'ai entendu un jour l'album d'Elvis en gospel.
Oui.
Sa maman était baptiste, donc elle était fervente chrétienne du gospel. Le gospel, ça vient d'une souche anglicane, c'est-à-dire qu'ils sont protestants. Mais le gospel. C'est venu après le Negro Spiritual, je l'explique souvent. Dans le Negro Spiritual, ils n'avaient pas le droit de composer. Alors, Amazing Grace, ils ont fait 4 textes différents dessus. On peut parler à Dieu dans le Negro Spiritual. Le gospel, on ne s'adresse jamais à Dieu. On parle à Jésus, My Lord.
Tout à fait. C'est la différence.
Ils suivent les principes du testament.
Et je pense que vous savez que les paroles d'Amazing Grace auraient été écrites par un prêtre anglican, un certain John Newton, qui au départ était un ancien négrier, repenti, qui est rentré dans les ordres.
Bravo.
Et qui a écrit ce texte de grâce.
Tout le monde le chante maintenant.
Et tout le monde le chante.
C'est un classique.
Et Elvis le chante super bien, on l'écoute.
Oui.
Quelle voix magnifique.
C'est très inspirant. Hein.
Le King, vous connaissez tout d'Elvis. Hein, j'ai l'impression que
c'est-à-dire que mon fils, chaque fois qu'il veut me faire plaisir, il me trouve un Elvis. Les coffrets, les machins, ils ont tellement fait de sorties depuis qu'il est parti. J'ai pas mal de choses. J'ai beaucoup de choses sur Ray Charles, beaucoup de choses sur Elvis. Et bientôt, ma discothèque sera plus que ça parce que mon môme, il vient chez moi. Il part avec des 30 tours qui m'appartiennent.
Votre môme, qui est un peu grand maintenant.
Tout ce qui est à toi, oui, mon chéri.
Il a quel âge, le petit garçon, aujourd'hui?
Oui, il a 45
ans. C'est pour ça.
Il part avec des paquets de disques et petit à petit, ma discothèque n'a plus que des chanteurs noirs que j'aime. Tu vois, Elvis, Ray Charles, comment elle s'appelle, Gladys Knight and the Pips.
Et si je vous dis... Et Janis Joplin.
Oh, mais j'adore.
Janis Joplin,
elle m'a soudé le moral quand j'étais à Saint-Germain, qu'on comptait nos centimes pour bouffer, Hervé et moi. Et
la bohème, quoi.
Je mettais Janis, elle n'était pas encore morte, évidemment. Elle me faisait rêver, vraiment. Cette voix écorchée vive, cette douleur qui en elle, c'est très beau.
Et justement, c'est une question que je voulais vous poser. Piaf a une vie cabossée, Janis Joplin, qu'on évoque grâce à vous, a une vie extrêmement cabossée. La chanson qu'on va entendre d'ailleurs, elle a enregistré la veille de sa mort, c'est Me and Bobby McGee. Oui. Elle a enregistré le 3 octobre 70, la veille de sa mort. Elle est morte d'une overdose. Est-ce qu'il faut, selon vous, avoir beaucoup souffert pour être une grande interprète?
Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Je crois qu'il faut aimer beaucoup la musique. Et surtout... aimer les gens et comprendre que quand on est sur une scène, on leur donne quelque chose. On est là pour leur faire oublier les choses.
Mais justement, ce don que vous savez si bien, cette espèce d'émotion que vous savez si bien faire passer sur scène, que vous avez vu de multiples fois sur scène, est-ce que cette émotion-là, on ne va pas la chercher un petit peu dans des coins?
J'ai une enfance de cabossée, hein, quand
voilà,
même.
C'est ce que
était une maman improbable, parce que ce n'était pas de sa faute. Et tout le monde sait, j'en ai parlé beaucoup cette année. Et elle avait l'esprit d'une petite enfant. Elle était née avec un retard mental, et c'est son copain d'enfance en face... qui m'a fait joujou avec elle, et voilà. Je suis là. J'en veux à personne. Mais ma mère, ça a été une grosse souffrance, parce que je comprenais pas, quand j'étais petite fille, pourquoi ma mère était pas comme celle des autres. Et on lui parlait. Quand je sortais d'école primaire, on parlait à ma mère comme une gamine.
C'est ça.
Alors c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Parce qu'elle était très aimante, vous savez. Elle souriait tout le temps, elle rendait service tout le temps.
Elle
l'appelait Jeannette, elle s'appelait Jeanne. Et elle l'aimait beaucoup. J'ai encore deux, trois personnes qui m'ont connu enfant, qui sont au village, on aime parler de ma maman. C'est normal. Et Jeanne, il me parlait avec beaucoup de joie. Et il m'a fallu des années pour que je comprenne. Et je suis devenue, avant qu'elle ne meure, sa maman.
C'est ça.
De changement, de substitution.
Elle vous a vu réussir ?
Pardon ?
Elle vous a vu réussir ?
Non, elle est morte 2 ans avant que je chante.
Par contre, votre grand-mère qui vous a élevé, elle était là, elle était fière de votre
réussite. Mamie, j'en ai fait profiter.
C'est génial.
Je l'ai emmenée en voyage avec moi, j'allais chanter en Espagne, je l'emmenais.
Est-ce qu'être artiste, Nicole, c'est pas justement savoir faire de ces bleus à l'âme des objets artistiques pour les offrir aux autres? De faire de ces bleus à l'âme les plus belles émotions.
On a quelque chose à donner quand on est sur scène. On ne vient pas que faire une démonstration de son savoir.
On ne vient pas se servir, on vient
professionnalisme.
Donner.
On vient donner. Moi, je suis heureuse quand un petit gamin de 8 ans, ça m'arrive dans les églises, ils viennent avec leur maman, leur grand-mère, ils viennent en famille. Et me regarde comme ça d'un air étonné. « Ah, oh, t'as bien chanté !»
C'est beau,
mais
ça.
D'un air ravi. Alors là, ça me touche. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et là aussi, quand on te dit « Vous m'avez mis les larmes aux yeux, vous m'avez donné le frisson », eh ben, c'est encore mieux que le chèque qu'on donne à la fin du concert.
Nicole, c'est pas vous qui allez le dire, mais pour comprendre ce qu'est une artiste populaire et une artiste que les gens aiment, vous êtes arrivée dans nos studios ici à RCJ, il y avait un peu un genre d'émeute. Enfin, le nombre de gens qui sont venus exprès parce qu'ils savaient que vous venez, c'est pas ça le plus beau cadeau de ce métier, c'est pas ça, justement.
Eh ben, c'est-à-dire qu'on a l'impression de faire partie, d'une grande famille.
Une grande famille dans laquelle vous avez choisi d'inclure...
Vraiment, parce que moi, je ne suis pas sauvage. Je signe mes autographes, je fais des selfies, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est bête, les chanteurs qui s'encombrent, qui disent non à tout. « Ah non, je suis pressé, j'ai pas le temps. »
Ils n'ont rien compris.
Je comprends pas.
Ils n'ont rien compris.
Je comprends pas. C'est la moindre des choses, la moindre des politesses à faire. Qu'est-ce que ça coûte, 30 secondes?
Et de rendre à la vie ce qu'elle nous a donné. Nicole, je pourrais vous écouter des heures, mais on est parti quand même de Janis Joplin. Et Janis Joplin, on va l'écouter quand même. On va l'écouter. Janis Joplin.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon.
Janis Joplin, Me and Bobby McGee, le choix de Nicoletta dans son émission, dans ses refrains de refrains de votre cœur, Nicole. Nicole, aujourd'hui, quand vous voyez des tas de gens, des tas de jeunes artistes venir et vous célébrer comme ils vous célèbrent, qu'est-ce que vous ressentez?
Il n'y en a pas beaucoup.
Quand même.
On nous fuit un peu.
Pourquoi?
Non, on est une génération... Vous savez, les dinosaures, on fait peur un peu à la jeunesse, parce que eux, ils se demandent s'ils feront la carrière que je fais, par exemple. Mais j'ai découvert une jeune fille qui est un amour, qui adore son public et qui se donne et qui est merveilleuse.
C'est qui?
C'est Zoé de Sagazan.
Oui, parfaitement.
Elle est magique, cette môme.
Elle écrit magnifiquement bien.
On m'a emmenée dans sa loge, je l'ai vue à La Rochelle. On s'est bu le champagne. Elle m'invite
au Francofolie de La Rochelle cet été.
Exactement. Et elle est, on s'est pris dans les bras. Elle est magique, cette enfant. Elle est vraiment magnifique. Mais n'oublions pas qu'elle était aide-soignante.
Elle vient, elle sait d'où elle vient. Et ses parents
elle
sont
sait,
artistes.
Elle sait ce que sont les gens.
Et son papa est artiste, un artiste qui a beaucoup de mal,
peintre,
et beaucoup de mal à se faire reconnaître,
là,
à vivre de son métier. Et donc voilà, donc elle a tout compris.
Elle est merveilleuse. Comme elle a un rapport avec le public qui est extraordinaire. Elle a tout compris.
Nicole, une question que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour? Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour?
Tout ce que j'ai vécu, c'est que du cadeau. Et comme mon fils le dit, maman, repose-toi, parce que finalement, c'est du bonus, ce que tu vis.
Un bonus qu'on vous souhaite jusqu'à 120 ans, Nicole.
Et je remercie le public quand même, parce que ce bonus, c'est grâce à lui.
Et nous, Nicole, sur RCJ, on vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je rappelle votre actualité. Au mois de novembre, la sortie des 50 plus belles chansons de la carrière de Nicoletta. Et puis alors, des dates que je vous invite à aller voir sur notre site internet. Ça commence le 2 novembre et c'est parti pour tout l'automne et pour tout l'hiver. Toutes les dates sur notre site et sur RCJ. Nicole, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
Je suis ravie de te retrouver. Je reviens quand tu veux.
Avec plaisir. Merci,
et
Nicole.
Bonne chance.
Je vous embrasse.
RCJ, à l'écoute de votre vie.
Bonjour, c'est Marc Wielinski. Je vous retrouve un vendredi sur deux, de 12h à 13h, pour l'Air du Temps. L'Air du Temps, la nouvelle émission d'analyse et d'actualité en direct sur Radio RCJ. Décryptage, débat, commentaires avec nos chroniqueurs. L'Air du Temps, c'est vendredi à 12h.
Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
Faites votre don sur kkl.fr.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France? Vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite, gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile? Le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaques. Contactez le kiosque solidaire, service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement.
Certains jettent de l'argent par les fenêtres. Et d'autres vont chez Best Fenêtres. Du 14 septembre au 5 octobre, passez en mode économie d'énergie. Profitez de jusqu'à moins 20% sur vos portes, fenêtres et volets. Il fera peut-être moins 20, mais dehors, vous serez bien au chaud avec 20% d'économisé. Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e et 15 rue Jean Moulin, Les Lilas. 01 43 73 36 36. 01 43 73 36 36. Entreprise qualifiée RGE pour bénéficier des aides de l'État.
Que sait-on vraiment du Hamas et notamment en France? Que sait-on de son histoire, de ses alliances, de son idéologie, de ses objectifs? Connaît-on ses manœuvres, ses financements? Lié militairement à l'Iran, financièrement au Qatar et politiquement à la Turquie, le Hamas constitue une organisation terroriste très particulière. Hamas, de Mohamed Sifaoui, est une plongée inédite dans les moindres recoins du mouvement terroriste. Une enquête historique édifiante, réalisée par un journaliste et politologue qui travaille sur les mouvements islamistes depuis plus de 30 ans. Hamas, de Mohamed Sifaoui, aux éditions du Rocher, à lire absolument, un livre avec le soutien de RCJ.
RCJ, à l'écoute de votre vie.
média du Fonds social juif unifié.
Vous